L'Atelier des médias.
Salut, c'est Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Je suis en vacances cette semaine, mais je passe les clés de l'atelier à Manon Mella pour le troisième et dernier volet de notre série Médias et banlieues. Bien entendu, Simon Decreuse, mon complice, reste à ses côtés. Mélissa Barra et Dilette Sadaoui sont également à leur poste. Restez avec nous.
Television screen, television screen, television screen, television screen.
L'Atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous, 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 vous.
L'émargement désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient réalité. Et la réalité, un cauchemar.
C'est la 25ème image. Et ça se fait de beau carnage.
C'est la 25ème image.
C'est la 25ème image. Choisis bien ton personnage. C'est la 25ème image. Et ça se fait de beau carnage.
C'est la 25ème image.
C'est la 25ème image. Choisis bien ton personnage.
Les yeux rivés sur la télé, rien ne m'échappait. J'étais fasciné par les truands et la vie qu'ils menaient. Il faisait le mal, mais était toujours bien sapé, plein de femmes et tout ce qu'il voulait. Être méchant m'était facile. J'ai donc décidé d'avoir le premier rôle dans le scénario dont je rêvais. J'étais trop jeune pour comprendre où j'allais. Agir sans réfléchir, c'est exactement ce que je cherchais.
Quand un enfant s'assied devant sa télé, c'est un épais écran de fumée qui se développe dans sa tête, loin de la vision réelle d'un humain. C'est fait du quotidien, mais est-ce la pensée du spectateur naïf s'il devient comme une victime de malade. Spectateur, la veille vierge ventile se tache de noir, absorbe la violence à l'instar d'un buvard.
C'est la 25ème image, et ça se perd de vos carnages.
C'est la 25ème image.
C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage.
RFI.
Au moment où j'ai commencé à enquêter sur la relation compliquée qu'entretient la télévision avec les banlieues, une histoire a attiré mon attention. Elle commence au soir du 12 avril 2015 avec la diffusion dans le magazine Zone Interdite d'M6 d'un reportage intitulé
« Quartier sensible, le visage des nouveaux ghettos ».
Il s'agit d'un tour de France des cités HLM où il est question d'islam, de communautarisme, de familles monoparentales et de trafic de drogue.
Moi non, c'est ça le ghetto, ça marche comme ça.
Si c'est pas nous qui nous entraînons, on va nous écraser.
Donc après je me suis converti à l'âge de 22 ans, c'est en 2002, de Kevin, c'est devenu Farid.
Pour illustrer ces nouveaux ghettos, les journalistes d'M6 ont choisi un quartier de Roubaix, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi d'Évreux, en Haute-Normandie, de Marseille, des Mureaux et de Bobigny, en Île-de-France.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Zone Interdite. Si certains habitants jouent la carte de l'intégration, d'autres s'enferment au contraire dans leur communauté ethnique ou religieuse. Dans ces ghettos, une constante apparaît, l'absence des pères. Sans modèle, sans autorité, certains jeunes dérivent et jusqu'au pire.
3 jours après la diffusion du reportage, le mouvement des jeunes communistes de Bobigny-Drancy a décidé de porter plainte contre M6.
On a porté plainte sur 2 points. La première chose, c'est sur la discrimination territoriale. La deuxième plainte, c'est sur la diffamation. Denis, je suis responsable des jeunes communistes de Bobigny-Drancy. Donc on avait un reportage qui, d'une part, commençait par un premier truc scandaleux, quoi. C'est on voit journalistes dire les Français et les Maghrébins cohabitent ensemble. On interroge des familles monoparentales avec des enfants qui sont entre guillemets violents. Ils mettent en scène en fait le fait qu'aujourd'hui, qu'on est issu d'une famille monoparentale, l'enfant est forcément violent. Et ça, je pense, c'est quand même scandaleux de dire ça aujourd'hui. Et nous, on dit pas que Bobigny, c'est tout rose, c'est tout beau, etc. Nous, on dit que ce reportage-là ne représente pas Bobigny, ce n'est pas l'image de Bobigny, et qu'il n'y a pas un vrai travail qui a été fait. En fait, ils sont juste venus filmer un jour, 2 jours, quelques passages un peu, on va dire, violents pour du cinéma. Ils ont inventé des scènes aujourd'hui, en fait, à des quartiers où il s'est passé des choses dans ce reportage-là. Et on n'a jamais vu ces choses-là. Et nous, on essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui on vient sur Bobigny pour montrer ces images-là, alors que sur Bobigny, il y a plein d'autres choses qui sont faites de très beaux, que ce soit par les associations, dans les quartiers, parce que derrière, on est discriminé à l'embauche, à l'école, à l'université, dès qu'on vient de banlieue et qu'on a un CV avec une adresse, du 93, du 94, etc. On a moins confiance confiance en nous. On a plein d'enquêtes qui montrent que quand on est de banlieue, on a moins de chances d'être embauché, et ça c'est scandaleux. Donc on va savoir aujourd'hui en fait si les jeunes communistes en tant qu'organisation peuvent porter plainte et sont aptes à aller jusqu'au procès.
J'ai rencontré Denise, le responsable du mouvement que vous venez d'entendre le 16 octobre devant le tribunal de grande instance de Bobigny. L'enjeu de cette audience ne concernait pas le fond de la plainte, mais sa validité, ainsi que le montant de la consignation à verser pour pouvoir continuer la poursuite. À l'audience, je croise l'un des plaignants, habitant du quartier Paul Couturier à Bobigny.
Là, on vient de sortir de l'audience de procédure dans le cadre de la citation directe qui nous oppose donc à M6 et à deux boîtes de production. Donc là, on sort du tribunal et du coup, finalement, oui, on peut aller au procès. On a tout intérêt à agir. Voilà, l'État donc via la procureure de la République n'a émis aucune observation. En tout cas, voilà, on ira au procès. Ça se déroulera donc le 17 décembre à Bobigny. On reste à Bobigny. Le procès va avoir lieu. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir maintenant avoir le débat de fond sur la question de la diffamation, de la discrimination territoriale, d'incitation à la haine raciale, religieuse, concernant ce genre de reportage. Voilà.
Est-ce que les avocats d'M6, des différentes sociétés de production étaient là?
Non, personne ne s'est déplacé. On est les seuls, les demandeurs, les plaignants, on est les seuls à s'être déplacés. De leur côté, ni les boîtes de prod, ni M6, aucun avocat ne s'est déplacé, aucun représentant, personne. Voilà, moi je pense que ça démontre un mépris, quoi, un peu un mépris pour nous, ce qu'on peut penser, un mépris pour notre démarche. Voilà, je pense qu'à la fois, ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne nous prennent pas au sérieux parce que les médias dominants, les dames mainstream, ils ont l'argent, ils ont l'audience et un petit collectif d'habitants qui se bougent pour faire respecter sa ville, ça les intéresse pas plus que ça, mais je pense qu'en décembre, à l'audience de fond, on va leur faire comprendre que le respect, même si on est juste des habitants lambda de Bobigny, le respect, on va le conquérir.
Quel va être l'enjeu donc de la prochaine audience le 17 décembre prochain?
C'est à la fois de gagner sur le terrain judiciaire, c'est d'avoir enfin une victoire dans la continuité de ce que d'autres ont déjà pu faire, et comme je pense aux habitants de la Villeneuve à Grenoble qui ont déjà vraiment bien préparé le terrain et qui sont un exemple pour nous, parce qu'il faut arrêter, c'est plus possible de cette impunité de grands médias, de boîtes de production qui font en fait juste du fric, quoi, qui informent pas et qui font du pognon en stigmatisant, en discriminant des territoires. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est d'avoir une victoire judiciaire, enfin une jurisprudence sur ces questions. Et le deuxième enjeu, c'est d'avancer sur la question justement de la discrimination territoriale. Et ce n'est plus possible aujourd'hui, c'est un vrai critère, la discrimination territoriale, c'est plus possible de cracher impunément sur des territoires sans que personne ne fasse rien, personne ne dise rien. Et il y en a toutes les semaines, tous les soirs, des reportages comme ça, vraiment. Et du coup, pour nous, c'est le deuxième enjeu, il est politique et il est sur la discrimination territoriale. À Bobigny, à Roubaix, dans les quartiers nord de Marseille, peu importe, on a le droit d'être respecté comme tout le monde, comme le 5e arrondissement de Paris.
Le passage du reportage sur Bobigny qui a conduit ses habitants à porter plainte est une séquence sur une mère qui élève seule ses 5 enfants. Une scène dans laquelle le journaliste demande à la mère si elle a déjà pensé à prendre la pilule et si ses enfants ont été réellement souhaités.
5 enfants, ça peut paraître beaucoup de nos jours, surtout pour quelqu'un qui ne travaille pas. T'as jamais pensé à prendre la pilule? Est-ce que tes 5 enfants,
oui,
c'était des... Les 5 étaient désirés en fait?
Oui.
Ouais.
Ouais, les 5.
Nous avons voulu rencontrer les journalistes de Giraffe Prod et Yemaya Productions, les deux sociétés qui ont réalisé le reportage pour M6. Nous souhaitions avoir leur réponse. Mais Giraffe Prod et M6 ont préféré s'abstenir et Yemaya Productions n'a pour l'heure toujours pas répondu à notre demande. Mais M6 s'est à l'époque exprimé publiquement sur Europe 1. Et on passe au grand direct avec vous, Jean-Marc Morandini.
Bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue dans le grand direct. Le fait média du jour, c'est donc ce reportage sur les banlieues diffusé dimanche dans Zone Interdite qui continue à créer des remous. On vous dira quel est le problème dans un instant et même quels sont les problèmes et en direct la réponse d'M6. Avec Vincent Régnier, c'est le directeur des magazines d'information d'M6 qui est en direct avec nous. Alors il y a des accusations assez graves qui sont portées contre la société de production, en particulier par le fixeur Le fixeur, c'est la personne qui permet à l'équipe de reportage de travailler sur le terrain, qui dit qu'il a été manipulé, qui veut porter plainte. Il dit, elle voulait, en fait, l'équipe de production voulait des djellabas, des musulmans en train de faire la prière, des dealers. C'était ça le deal de départ ?
Alors, absolument pas. Absolument pas. Le deal de départ, c'était de montrer sans a priori et sans parti pris une certaine réalité, parce qu'on peut pas être complètement exhaustif, mais à travers des personnages, des histoires vraies, et c'est là où les fixeurs, comme on appelle ceux qui nous aident, on fait un travail journalistique au préalable pour nous permettre de rentrer dans ces cités, qui généralement, pour les reportages en télé, on ne rentre qu'avec les flics. Là, pour une fois, on le faisait journalistiquement de l'intérieur. Donc après, ça va être parole contre parole. Je crois qu'il y a eu un problème entre ce fixeur, donc ce contact, et la production. Et puis la production se réserve elle aussi le droit d'attaquer pour diffamation. Donc je voudrais pas rentrer dans ce détail, mais la réalité des choses, c'est qu'à l'heure où je vous parle, aucune plainte n'est déposée.
Aucune plainte n'est déposée à l'heure où vous nous parlez.
Aucune plainte n'est déposée à l'heure où je vous parle. Aucune plainte.
L'extrait que vous venez d'entendre date du mois d'avril dernier. Depuis, la plainte a officiellement été déposée et la chaîne M6 en a été informée. D'ailleurs, le fixeur dont parle Vincent Régnier ne fait pour l'instant pas partie de la liste des plaignants.
En plus, tous les personnages qui ont été dans ce documentaire ont salué ce qui a été fait.
Pour rappel, un fixeur est à la base une personne qui accompagne les journalistes sur les terrains difficiles ou peu connus, comme les zones de guerre. Paradoxalement, en France, l'emploi de fixeurs pour aller en banlieue est fréquent. Ce fixeur, donc, qui a travaillé avec les équipes de Giraffe Prod, c'est Mathias Kivigé. Il se souvient.
J'ai été abordé dans le cadre d'un reportage qui était censé casser les clichés. On ne devait pas parler de drogue, pas de religion, on devait faire vraiment quelque chose de positif pour les quartiers populaires. Donc j'ai accepté de faire le reportage dans cette optique-là. Et on est arrivé sur le lieu du tournage. Donc le premier jour se passe moyennement bien. Le deuxième, pas du tout. Et le troisième, catastrophique, parce qu'ils ont complètement réinventé le reportage. Ils ont voulu parler de choses qui n'étaient pas prévues à la base. Donc du coup, ils ont parlé de drogue, de religion. Ils sont tombés dans des clichés. Ils ont... tenu des propos qui étaient racistes sur le tournage.
Par exemple
Quand elle demande aux habitants de la tour à côté de la place du marché de se mettre tous à leur fenêtre, et qu'elle descend en bas une fois après avoir tapé aux portes, et qu'elle dit oui, ça fait vraiment cage à lapin, c'est bien, ça fait cage à poule, on sent la misère là. Elle allait voir des gamins de 5-6 ans, oui, ton père parle français, toi tu aimes la France, des phrases qui étaient complètement insupportables. Elle voyait des barbus passer ou des gens qui sortaient de la mosquée qui étaient en paix, quoi, et qu'elle disait oui, là c'est des écoles à djihadistes, ça regarde, ils sortent de la mosquée, t'as vu, ils sont très tendus, tu sens une tension dans leur regard. Ils m'ont demandé de rentrer dans une mosquée pour filmer, j'ai refusé. Ils ont filmé des enfants qu'on voit dans le reportage à un moment donné, et puis les propos qu'ils tenaient dans la voiture quand ils les filmaient, c'était juste insupportable. Du style, ah oui, bah là, dans 15 ans, eux, ils seront là. C'est des centres de formation à djihadistes. Enfin, tu sais, on était là, évidemment.
Donc, au début, en fait, ils s'étaient tournés vers toi en te disant on va faire un sujet loin des clichés. Ils t'avaient demandé de leur trouver qui comme type de protagoniste, parce que c'est souvent ça, on fait appel à un fixeur et puis on lui dit bon, bah, ramène-moi telle et telle personne. Ils t'avaient demandé quoi au début ?
À la base, ils voulaient des familles dans les quartiers populaires qui galèrent, qui n'ont pas accès à tous les avantages sociaux, etc., mais qui s'en sortaient malgré tout, qui avaient une volonté de réussir, etc. C'était dur, mais c'était pas la fin du monde, quoi. Donc on lui a proposé des familles françaises. Elle a dit, ah non, moi je veux pas de français, je veux vraiment des familles immigrées. J'ai dit, il y a des familles africaines, éventuellement. Elle a dit, non, je veux des familles musulmanes arabes. Des arabes. J'ai dit, bah, pourquoi des arabes ? Elle a dit, parce que là, des arabes, si on a des français, c'est pas bon. Moi j'ai dit, pourquoi vous voulez des arabes, forcément ? Donc on n'a pas trouvé de familles arabes. Donc elle a payé un mec, on voit dans le reportage là, qui s'appelle Adam, qui est un cassos un peu retardé, en vérité tout le monde le connaît, c'est un peu un gotorep, quoi. Et elle lui a dit oui, il faut que tu me donnes ça comme réponse, nanana. Ils ont fait carrément un scénario de cinéma. Elle lui dit oui, viens à ce moment-là, quand on t'appelle, tu viens, tu marches comme ça, tu fais tel regard, le regard triste quand tu montes, on vient chez toi, faut que tu enlèves les tableaux, faut vraiment qu'on voit la tapisserie dégueulasse. Et nous on était là, mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, ouais, ils ont fait un film de cinéma, qui est pas du tout représentatif du quartier.
Et toi, quand t'as visionné le reportage, t'as réagi comment ?
T'es consterné, après tu te dis, c'est tellement grossier que ça en devient ridicule, en fait. On a déjà vu tellement des reportages comme ça, c'est cliché complet. Et puis il y a eu des réactions très négatives par rapport à ce reportage, ça a fait un buzz un peu, parce que tout le monde en a parlé. Parce que justement, les gens ont envie de voir autre chose. C'est, 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 ça y est, c'est bon, c'est fini. Les reportages comme ça, c'était bien. Dans les années 2000, les gens étaient un peu dupes, mais là, ça y est, c'est bon.
Quel est l'impact, à ton avis, de ce genre de reportage sur les populations qui vivent dans ces quartiers populaires ?
Bah, ça engendre déjà de la colère, parce que les gens étaient vraiment très, très en colère. On va chez eux, on leur ment, on les prend pour des cons, on les fait passer pour des gens qui ne sont pas. Et après, on s'étonne que les gens après soient frustrés, énervés, etc. Mais c'est à cause de personnes comme ça que le pays n'avancera pas, que les gens vont grandir avec de la frustration, de la colère, et voilà. C'est pas normal. J'étais révolté, moi. Alors imagine un mec qui est père de famille, qui a 32 ans, on le montre à la télé, on dit c'est un chef de réseau de deal, c'est catastrophique.
Sors de l'image, je te dis, ta robe me parasite encore. Tu as beau courir dans le grand vide, faire soulever des nuages. Il n'y a ni arbre, ni mur, ni buisson de ronce pour te perdre de vue, pour te perdre de vue. Souris, approche-toi. Le plus à droite. Approche-toi. Bouge pas, ne bouge pas. Bouge. Ne bouge pas. Oh,
ouais, c'est bien.
Sors de l'image, je te dis. Tu as fait sombrer le décor. Dans le grand désert vide, tu me parles de loin. Je ne te comprends plus. Je plante une usine juste là, devant toi, pour te faire disparaître, pour te rendre invisible.
Le discours critique à l'égard du traitement de la banlieue par la télévision est très commun. Même si les accusations portées par le fixeur Mathias Kivigé sont graves, les méthodes qu'il décrit ne sont pas nécessairement représentatives. De même, le traitement médiatique n'est pas toujours aussi caricatural. À titre d'exemple, depuis un an, l'émission Zone Interdite sur M6 a diffusé près de 25 reportages. Sur ces 25 reportages, j'ai compté 4 traitent des quartiers populaires, des banlieues. Sur ces 4 reportages, un équilibre est respecté. 2 abordent les banlieues sous l'angle de la drogue et de la violence, et les 2 autres sujets sont plus positifs.
Approche-toi, vas-y, roule-toi dans le sable.
Je fais très bien. Sors de l'image, je te dis.
Il est rare que les habitants de quartiers populaires décident de porter plainte contre un média. Le cas le plus emblématique est sans doute celui des habitants de la Villeneuve à Grenoble. En 2013, ils ont décidé de porter plainte contre France 2 après la diffusion, dans l'émission Envoyée spéciale, d'un documentaire sur leur quartier jugé, je cite, « non conforme à la réalité ». Le collectif des habitants de la Villeneuve a été débouté par le tribunal de Grenoble, mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel est intervenu. Il a reproché à la chaîne de manquer aux obligations déontologiques prévues à l'article 35 de son cahier des charges, c'est-à-dire la nécessité d'assurer la diversité des points de vue sur un sujet prêtant à controverse. Les plaignants de la Villeneuve ont été déboutés, mais ils ont décidé de continuer leur combat en usant d'une arme, l'expression.
En septembre 2013, une tempête s'est abattue sur le quartier de la Villeneuve. Un reportage à charge contre la cité grenobloise, réalisé par une journaliste d'Envoyé spécial.
Une fois à l'intérieur, la Villeneuve a des allures de forteresse.
Trafic, guerre de territoire, quartier secoué par la violence, des mots qui font peur. Choqués, les habitants se sont tout de suite mobilisés.
C'est quand même France 2, avec un cahier des charges pour avoir un documentaire qui fasse allumer la télévision à plusieurs millions de personnes, qui est responsable d'une image véhiculée dans le monde sur les quartiers.
Ce que vous venez d'entendre est un extrait d'un contre-documentaire sur le quartier de la Villeneuve, réalisé par Vincent Massot et Flore Viennot, deux journalistes de la télé libre. Ce film colère, intitulé « La Villeneuve, l'utopie malgré tout », est un film qu'on pourrait dire militant, qui lutte contre la stigmatisation des banlieues, mais qui essaie aussi de construire une nouvelle relation entre les médias et les quartiers populaires.
Un film qui engage tout le monde à se remettre en cause. D'abord les médias, car la banlieue ne peut pas rester cette zone qui fait de l'audience en faisant peur. Mais aussi les habitants des quartiers populaires, qui doivent se mobiliser pour reconstruire l'image de leur quartier.
La violence, le trafic de drogue, la monoparentalité, le repli communautaire sont des réalités dans les quartiers difficiles. Les occulter serait une erreur. Mais alors que reproche-t-on à la télévision française ? J'ai posé la question au sociologue Jérôme Berthaud, auteur du livre La banlieue du 20h, mais ça, ce sera après le journal.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous explorons depuis 3 semaines les relations entre les médias d'information et les banlieues en France. Focus cette semaine sur la télévision.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Pauline, qui aime ce quartier dans lequel elle a grandi, a été blessée par ce reportage.
J'ai regardé avec ma fille qui a 8 ans et elle m'a dit on habite dans un quartier comme ça. Je lui ai dit non, toi tu connais le quartier. C'est pas ce que t'en montre la télévision qui est la vérité. Toi, ce que tu connais, ne t'inquiète pas. Tu vis ici comme avant. Voilà. Et parce qu'effectivement, c'était terrifiant, le portrait qui était fait de notre quartier. C'était un endroit où un vrai coup de gorge, quoi. Ma réaction, ça a été que je voulais absolument pas qu'on se laisse faire. Il a été diffusé le jeudi. Nous, on a proposé que le dimanche, on regarde ensemble le reportage. Il y avait tout le monde. C'était vraiment une réunion d'habitants.
La première fois que vous avez vu ce reportage d'Envoyé spécial, est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez vu ?
J'aimerais ne plus m'en souvenir.
Bonjour Jérôme Berthaud.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et maître de conférences à l'université de Bourgogne. Et en 2013, en octobre 2013 plus précisément, vous avez publié La banlieue du 20h aux éditions Agone. Ce livre est le résultat d'une thèse qui s'intitule La banlieue sur commande, enquête sur l'intériorisation d'un sens commun journalistique, c'est bien ça. Pour cela, vous avez enquêté pendant plusieurs années sur le journal télévisé de France 2. Vous vous êtes concentré sur un lieu, la rédaction, que vous décrivez comme le lieu d'inculcation de normes participant au maintien des pratiques et à la production de discours stigmatisants. Qu'avez-vous cherché à comprendre, Jérôme Berthaud ?
Alors les discours qui sont produits à partir de la rédaction sont potentiellement stigmatisants. Ils ne le sont pas automatiquement. Plus largement, je dirais qu'ils peuvent être souvent réducteurs. Et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est même plutôt les habitants des quartiers populaires qui le disent. Ce que montre l'étude que j'ai pu faire à France 2, alors c'était plus sur journal télévisé et moins sur des émissions de reportage type envoyé spécial, mais on retrouve des logiques d'organisation et de fonctionnement qui sont comparables. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les rédacteurs en chef, les présentateurs qui décident en amont de ce qu'on va voir dans les reportages. Et ce qui fait qu'on a des reporters en face qui peuvent faire des propositions de reportage, mais ces formulations vont être repensées par les rédacteurs en chef des émissions ou du JT, ou alors qu'ils vont proposer des reportages pour qu'ils plaisent, pour qu'ils satisfassent aux normes de production, à ce que on pense que les rédacteurs en chef attendent. Et ce qui est intéressant dans le cas de La Vie Neuve, c'est que c'est même pas un reportage qui a été produit par des reporters d'Envoyé Spécial, titulaires d'Envoyé Spécial de la chaîne France 2, mais par une société de production qui s'appelle Ligne de Mire, qui en fait est liée à France Télévisions, à France 2, à Envoyé Spécial par un contrat commercial. Et donc ils étaient tombés d'accord en amont sur ce qu'il y allait avoir dans le reportage. Pour la petite histoire, on a découvert lors du procès, la chaîne et France 2 a produit le contrat de production qui liait les deux entités, et on s'est rendu compte que dans le contrat de production, en fait, le reportage devait s'appeler La Vie Neuve, de l'utopie à l'enfer, ou de l'utopie au cauchemar, je ne me rappelle pas exactement des termes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que avant même que la reporter aille sur le terrain, parce que le contrat de production avait été signé en décembre 2012, et les premiers repérages sur place ont été faits en janvier, donc un mois après. Donc avant même d'aller sur le terrain, la reporter, la boîte de prod, les présentatrices d'Envoyé Spécial avaient déjà décidé de la tonalité globale du reportage, alors qu'il s'agissait de tirer un bilan de 40 ans d'histoire du quartier, d'un quartier de 12 000 habitants. On voit bien un peu toutes les logiques de réduction où en fait, de 12 000 habitants, 40 ans d'histoire, on finit sur un reportage de 26 minutes où il est surtout question de déviance, de délinquance, de violence.
Justement, à propos de ça, vous dites que le journaliste met en scène la banlieue. Pourquoi est-ce qu'il met en scène ce territoire-là plus qu'un autre ?
Ce qui est sûr, c'est que du côté de la production journalistique, on a d'abord des formats qui sont très contraignants. Dans le journal télévisé, on a souvent des reportages qui font 1h30. Alors des fois, on a des formats plus longs qui font 2 minutes, 2 minutes 30. Hein. Les journalistes vous diraient, mais non, des fois, on est capable de creuser des sujets et de faire un peu plus long, c'est vrai. Mais toujours est-il qu'on considère que comme les formats sont courts, il faut immédiatement que le téléspectateur puisse comprendre où est-ce que ça se passe, avec qui ça se passe, quelle est un peu une unité de temps, de lieu, d'action, comme au cinéma en fait. Et donc, ça se traduit par le fait que quand un reporter est par exemple sur le terrain dans un quartier populaire, et j'ai assisté à ce type de consigne en suivant des reporters sur le terrain, le reporter va dire à son caméraman, tu ne me fais pas un plan de ces tours-là parce qu'elles sont trop basses, prends-moi celles-ci parce qu'elles sont plus hautes. Et donc on essaie de reconstruire ce que j'ai défini dans le livre comme la face banlieue des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'il y a une banlieue médiatique telle qu'on a l'habitude de la voir dans les quartiers populaires, alors que les quartiers populaires sont beaucoup plus diverses. Par exemple, en accompagnant des gens à Est à Clichy-sous-Bois, ils s'étonnaient eux-mêmes qu'il y avait des grandes pelouses à certains endroits. Il y a effectivement des barres d'immeubles qui sont très délabrées, très abîmées, très concentrées, mais vous avez des lieux qui sont où il y a beaucoup plus de pelouses, d'arbres. D'abord, ça s'appelle Clichy-sous-Bois, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Et donc, les gens Est eux-mêmes, n'ayant une connaissance de Clichy-sous-Bois que par leurs reportages que font leurs propres collègues, étaient évidemment surpris de découvrir cette image de Clichy-sous-Bois. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur place, au lieu d'essayer de produire une image conforme à ce qu'ils auront pu découvrir sur place de la ville, eh bien, ils vont tendre à reproduire cette image de Clichy-sous-Bois qu'ils ont déjà vue à la télévision. Pourquoi ? Parce que quand ils vont montrer leur reportage à leur chef va dire « Mais c'est pas Clichy-sous-Bois que tu me filmes là. Les gens ne vont pas comprendre qu'on a Clichy-sous-Bois. » Donc, il faut, en 1 minute 30, en gros, il faut qu'on reconnaisse, il faut des tours, il faut des paraboles, il faut des tags, il faut toute une série d'indicateurs comme ça, iconographiques, pour pouvoir reconstituer la banlieue. Donc ça, c'est une des premières raisons, c'est qu'on considère que les gens ne vont pas comprendre, les téléspectateurs ne vont pas comprendre où ils sont si on ne restitue pas une série de marqueurs qui très vite va pouvoir poser des repères. Mais l'autre raison pour laquelle on a ces codes qui se perpétuent, ces façons de représenter les quartiers populaires, de choisir tel barre d'immeuble plutôt que tel autre, tel type d'habitant plutôt que tel autre, etc. Il y a encore derrière des logiques de production et de productivité. C'est-à-dire qu'un reporter qui part sur le terrain, très souvent, pour le journal télévisé, il n'a qu'une journée, une après-midi, bien souvent, une journée c'est déjà long, deux jours, on est quasiment dans le reportage à l'échelle du journal télévisé. Et donc, en fait, si ce reporter, il se laisse submerger par la diversité, l'hétérogénéité, la pluralité de situations qu'il va rencontrer sur place, et elle est réelle, cette diversité, cette pluralité de situations, et s'il commence à tirer le fil de tout ce qu'il surprend sur place, il va partir dans une enquête très très longue, et s'il commence à tirer le fil, il pourra jamais honorer la commande qui lui a été formulée en amont, et il est parti peut-être pour un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, enfin il pourrait passer des mois dans ce quartier. Et au final, il est quand même obligé de rentrer le soir même ou le lendemain soir avec un reportage quasi bouclé. Donc en fait, les stéréotypes, ce que je montre dans le livre, c'est que les stéréotypes qu'on retrouve dans les discours journalistiques, avant d'être des éléments du discours, c'est d'abord des éléments du processus de production qui servent le processus de production. Ils ont une vocation opératoire, c'est-à-dire qu'ils vont servir à la production à se faire. Ils vont être un guide, ils vont être un peu une béquille, comme une série de pense-bêtes en fait, pour le journaliste sur le terrain, de se dire, c'est bon, j'ai mes tours, j'ai mon travelling sur les tours, j'ai mes femmes voilées, j'ai mon éducateur, j'ai mon imam, j'ai mes tags, j'ai mes paraboles, etc. Et je suis à même, en rentrant à la chaîne, de pouvoir recomposer cette imagerie de la banlieue à partir de ce quartier populaire singulier qu'attendent mes responsables. Beaucoup des logiques de production, des logiques de fonctionnement de l'univers journalistique que je pointe après d'autres, il y a beaucoup de recherches en sociologie des médias qui peuvent pointer ces choses-là, elles sont évidemment pas spécifiques aux quartiers populaires, mais elles sont, je pense, exacerbées dans le traitement des quartiers populaires. Pour toute une série de raisons là encore, qui est d'abord liée à la distance sociale en fait, qui peut séparer les journalistes, qui très souvent sortent de milieux très aisés. Alors bien sûr, il y a des procédures de recrutement, on essaie de diversifier un peu le recrutement des journalistes, mais globalement, les journalistes qui arrivent à rentrer dans les grandes rédactions sortent des très grandes écoles de journalistes très sélectives, et donc on a un tri social en fait, c'est un tri scolaire qui en fait cache un tri social parmi les jeunes gens qui voudraient devenir journalistes en fait, et donc on se retrouve comme ça avec des journalistes qui, quand ils vont à un quartier populaire, très souvent ils y vont pour la première fois, donc ils sont d'autant plus sujets aux reportages et aux stéréotypes qu'il y avait dans les reportages qu'ils ont eux-mêmes visionné auparavant de leur père en fait, leurs confrères, collègues, etc. Donc il y a cette première logique qui fait que la distance sociale est particulièrement grande et donc c'est propice à mobiliser de beaucoup plus d'implicites, d'impensés, de stéréotypes dont ils n'ont pas forcément conscience.
En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette.
Un.
énormément de Français célèbres. Picasso, espagnol, Salvador Dali, Vincent Van Gogh, qui était hollandais, Apollinaire, Frédéric Chopin, Marie Curie, qui tous trois étaient polonais.
Depuis 2005, il y a eu des efforts qui ont été faits dans le recrutement au sein des rédactions. Le profil social des journalistes a quand même évolué. Est-ce que ces efforts-là se ressentent dans la production de sujets ou est-ce que justement les habitudes sont tellement fortes que finalement c'est imperméable ?
Il y a eu des tentatives de diversifier, comme on dit, les recrutements dans les rédactions. Malgré tout, les filières généralistes habituelles restent les principaux pourvoyeurs de stagiaires et puis de pigistes, de CDD. Donc, c'est-à-dire les très grandes écoles de journalisme, l'école supérieure de journalisme de Lille, le CFJ, le centre de formation des journalistes de Paris, etc., restent malgré tout les principaux viviers de recrutement. D'autant que les rédacteurs en chef, les présentateurs qui recrutent sortent même de ces écoles. Donc ils tendent à considérer qu'ils ont fait les bonnes formations puisqu'ils sont eux-mêmes de très bons journalistes, donc on puise dans ces mêmes formations. Donc effectivement, comme vous le dites, on a essayé de diversifier un peu et donc de monter par exemple des filières par apprentissage pour essayer de pouvoir recruter des jeunes issus des quartiers populaires par exemple même. Mais ce dont on se rend compte quand on fait de l'observation des journalistes au travail, c'est que bien souvent ces jeunes issus des quartiers populaires, d'abord, dans quelle mesure sont-ils représentatifs de la jeunesse des quartiers populaires qui tend à vivre longtemps dans les quartiers populaires, puisque pour intégrer ces écoles de journalisme, même si c'est des formations par alternance, il y a quand même un tri scolaire qui s'opère. Et donc, ce sont les très bons élèves des quartiers populaires qui vont ensuite réussir à intégrer ces filières et à atterrir finalement à France 2, à TF1, à BFM, etc. Donc déjà, ils peuvent porter eux-mêmes un regard sur les quartiers populaires qui n'est pas forcément ceux que un jeune qui aura peut-être pas le bac, qui va s'orienter plus vite dans les professionnels, portera sur son propre quartier. Donc déjà, il y a cette distinction qui opère. Et quand bien même ces jeunes issus des quartiers populaires qui arrivent à intégrer France 2 voudraient faire valoir d'autres types de sujets, d'autres types d'approches, le problème, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est dépendant du fait que ces propositions de reportage vont être acceptées en conférence de rédaction par ces rédacteurs en chef et ces chefs de service. Et bien souvent, les jeunes des quartiers populaires, issus des quartiers populaires que j'ai pu rencontrer à France 2 dans la période 2006-2007, donc dans l'année qui suivait les émeutes, on aurait pu imaginer qu'un an après les émeutes, les journalistes soient, et les rédacteurs en chef soient particulièrement sensibilisés à cette question de la représentation des quartiers populaires. Et bien, ce dont on se rendait compte, c'est que ces jeunes issus des quartiers populaires, ayant grandi dans les quartiers populaires, se retrouvant à la rédaction de France 2, constataient qu'ils avaient du mal à faire valoir leurs propositions de sujet auprès de leur rédacteur en chef et de leur chef de service. Très souvent, et là encore, la proposition était reformulée, remodelée à l'aune des normes de production des rédacteurs en chef et des présentateurs. Ou alors, leur sujet pourrait être accepté pour devenir ce qu'on appelle dans les rédactions et les JT des sujets positifs sur les banlieues. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai changement finalement qu'il y a pu y avoir après ce qu'on a appelé les émeutes de 2005, ce qu'on peut aussi considérer comme des révoltes sociales de 2005, c'est qu'en fait, il y a eu une pression d'observateurs extérieurs aux rédactions, d'intellectuels, de responsables politiques également, d'associations, qui s'est retraduit notamment du côté du CSA, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui impose aux chaînes, et y compris aux chaînes privées, de donner une représentation diversifiée des populations, montrer la diversité de la population française et à travers ces euphémismes, c'est en gros montrer une image plus positive des quartiers populaires notamment. Et donc, il y a régulièrement dans la rédaction la préoccupation de rédacteurs en chef de dire, zut, on n'a pas fait notre sujet positif sur les quartiers populaires, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, il faut qu'on en fasse un. Et là, si vous avez un jeune issu d'un quartier populaire qui propose de traiter tel ou tel aspect, qui montre le quartier sous un jour une lumière nouvelle, bon là il a peut-être plus de chance à ce moment-là, parce qu'il y a une demande du côté de la rédaction en chef qui vient des pressions que ce rédacteur en chef subit, de l'extérieur en fait, notamment du CSA, qui fait que là son sujet a peut-être une chance de passer.
Agnès Varamian, rédactrice en chef du journal télévisé du 20h sur France 2, connaît bien le travail de Jérôme Berthaud. Elle pense, elle, que des efforts ont été faits.
Mais je pense que c'est une vision très datée qui ne correspond pas à ce qu'on fait aujourd'hui, mais pas du tout. Moi, je ne donne pas ordre à des journalistes de filmer des travelling de loin avec des grandes tours, etc. Si c'est le décor dans lequel ça se passe, pourquoi le cacher? Mais je veux dire, on répond pas à des codes. Encore une fois, nous ne sommes pas irresponsables ou inconscients des clichés qu'on doit éviter. Je veux dire, on n'est plus dans ce piège-là du tout. J'ai repris la liste des derniers sujets qu'on a fait. Ça concerne l'aménagement du territoire, ça concerne des portraits de gens qui ont obtenu le prix du talent des cités, ça concerne les enjeux de mixité sociale. Après apparaissent dans nos sujets sur les gardiens d'immeubles, sur l'emploi, sur les maisons pour l'emploi, sur les coachs pour emploi, des gens qui effectivement habitent en banlieue, qui sont issus de la diversité. Mais j'allais dire, on s'appuie au contraire sur ce qui sévit dans ces quartier, beaucoup plus que sur des clichés qui, à mon avis, sont extrêmement datés. Donc, sa vision même de notre traitement médiatique et journalistique est ancienne. Elle est elle-même caricaturale. Je suis désolée de dire ça, mais d'ailleurs, je crois que son travail s'est arrêté à peu près en 2007 à Jérôme Berthaud, et je peux comprendre qu'il y a eu ce type de cliché qui ait pu être véhiculé, mais c'est pas le cas aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire que le poids de la concurrence, la pression économique, finalement, sont presque incompatibles avec le devoir de réalisme d'un journaliste ?
Vous avez toujours des médias et des rédactions qui réussissent en se différenciant du traitement médiatique que font les autres médias et les discours dominants dans l'espace médiatique. Donc ça serait un peu simpliste de conclure comme ça. Ce qui est sûr, c'est que dans beaucoup de rédactions, de grandes rédactions audiovisuelles privées et publiques, il y a l'idée que effectivement, en tout cas, si on veut avoir de l'audience, il faut continuer notamment à accorder beaucoup de place aux faits divers, etc. Donc eux sont probablement convaincus que ces positionnements-là sont inéluctables. Et de toute façon, ils sont légitimes. Je veux dire, finalement, si les ministres de l'Intérieur et tous les partis politiques du gouvernement, pour l'essentiel, parlent en permanence de déviance, des délinquances dans les quartiers populaires, c'est bien que c'est une réalité. Puisque les personnes légitimes à parler dans l'espace public, qui occupent les positions importantes, le disent. Donc tout converge, en fait, beaucoup de choses participent à faire que ces discours, finalement, sont légitimes. Et quelque part, dans la rédaction, c'est quand vous les remettez en cause qu'on vous dit « Ah, mais toi, tu es militant. Tu es un journaliste militant. Tu ne veux pas voir les choses en face. Tu ne veux pas voir, en fait, les problèmes qui se posent dans un quartier populaire, en fait. » Donc c'est aux journalistes qui proposent un autre traitement qu'on renvoie qu'on accuse de ne pas être professionnel et d'être politisé et d'être militant. Donc, effectivement, il y a tout un travail à faire parmi les professionnels eux-mêmes de se questionner sur le pluralisme et les différentes formes de montrer la réalité sociale des quartiers, ça c'est sûr. Après, je pense qu'un des principaux chantiers dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même la question de l'audiovisuel public. C'est-à-dire que on pourrait imaginer finalement qu'un audiovisuel public, il y a des logiques d'audience, mais il n'y a pas que ça, voire elle ne devrait pas être présente. Je ne veux pas trancher le problème à la place des professionnels, mais en tout cas elle pourrait être combinée avec d'autres logiques pour trouver d'autres formes de traitement journalistique. Voilà, ça me semble en tout cas indéniable.
Le jeune de banlieue, c'est l'ogre des temps modernes. C'est un arabe mal rasé de 13-30 ans, vêtu d'un survêtement à capuche. Il se promène avec un cocktail Molotov dans une main et un couteau à cran d'arrêt dans l'autre. Il fume du shit dans les cages d'ascenseur, il brûle des voitures. Il gagne sa vie grâce à des trafics et en fraudant les allocations sociales. C'est nécessairement un garçon. Sa sexualité consiste à violer les filles en bande dans des caves. Sa spiritualité à écouter les prêches djihadistes de l'islam des banlieues, dans des caves également. Il déteste la France, l'ordre, et bien sûr, il déteste les Français, comprendre les Blancs. Il aime le djihad et l'islamisme. Son rêve, c'est de partir en Syrie, se battre aux côtés d'Al-Qaïda ou de Daesh, pour ensuite revenir en France commettre des attentats. Il ne serait donc pas étonnant que les parents disent bientôt à leurs enfants « Si tu n'es pas sage, le jeune de banlieue viendra te chercher. »
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
Thomas Guénolet, politologue, essayiste et enseignant, notamment à Sciences Po et à HEC. Je suis l'auteur du livre « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» préfacé par Emmanuel Todd.
Mon livre avait pour but, et apparemment c'est en train de fonctionner, de démontrer l'absurdité et le caractère à la fois haineux, raciste, phobique, profondément anti-musulman, du stéréotype sur les jeunes de banlieue, qui par ailleurs est anti-jeune d'ailleurs, plus largement anti-jeune. En fait, si vous prenez les peurs profondes des classes moyennes supérieures âgées, de culture catholique déchristianisée, ce que Emmanuel Todd appelle les MAS, c'est l'équivalent des WASP aux États-Unis. Si vous prenez cette partie-là de la population, ils ont peur de qui ? Ils ont peur des jeunes, ils ont peur des arabes, ils ont peur des musulmans et ils ont peur des pauvres. Et qu'est-ce que c'est qu'un jeune arabe musulman pauvre ? Eh bien, c'est un jeune de banlieue, dans leur imaginaire. Il faut savoir déjà qu'il y a la moitié des jeunes de banlieue qui ne sont pas musulmans. Il faut savoir aussi que parmi ceux qui sont musulmans, la pratique et la croyance sont en train de s'effondrer dans la jeune génération. Les chiffres sont vraiment spectaculaires à ce niveau-là, ce qui n'empêche pas par ailleurs qu'une minorité soit, elle, en train de devenir de plus en plus intégriste, voire de plus en plus radicale, avec une minorité dans cette minorité qui est disponible pour la violence. Néanmoins, par exemple, parmi les jeunes femmes françaises de confession musulmane, 85% n'ont jamais porté le voile. Jamais, mais jamais. Et pourtant, quel que soit le sujet, quand les médias abordent une actualité qui concerne les jeunes de banlieue, d'abord ce sont des garçons, alors qu'un sur deux est une fille, et ça tourne aux faits divers sordides de type viol ou tabassage, etc., etc. Alors, en croisant plusieurs types de témoignages, c'est-à-dire des témoignages de travailleurs sociaux en avant-première ligne sur le terrain, des témoignages de flics de banlieue, des témoignages d'enseignants qui enseignent en banlieue, concernant la criminalité, la délinquance, ou même le fait de faire partie d'une bande sans être ni criminel ni délinquant et en étant juste en train de glander, extrêmement bruyant, extrêmement pénible pour le voisinage, quand vous comptez tout cela dans un quartier, vous avez 2% des jeunes de banlieue qui sont concernés. 2%, pas plus. Les autres, en fait, ne sont pas concernés. Pas des criminels, pas des délinquants, pas dans une bande. Les médias ont un traitement des jeunes de banlieue qui est disproportionné par rapport à la réalité des jeunes de banlieue, et donc ce dont ils parlent existe, mais ce dont ils parlent est marginal. Ce qui nous fait rester dans le cliché encore, encore et encore. Je prends un exemple. Je vous ai dit, les criminels, les délinquants et les jeunes qui sont dans des bandes sans être ni criminels ni délinquants, c'est 2% des jeunes de banlieue. Pourtant, c'est le personnage de jeunes de banlieue dans 2/3 des films français qui ont des jeunes de banlieue. Par exemple, dans Intouchables, Omar Sy joue le rôle d'un jeune de banlieue. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Bah, il fraude les allocs, il deal du shit. C'est un petit voleur et il va être remis dans le grand chemin en rencontrant un riche paralytique avec qui ça va bien coller. D'ailleurs, son petit frère, qui est au collège, s'apprête à lâcher le collège pour aller dealer du shit en rejoignant un gang. Donc ça, c'est un film sur la grande fraternisation entre les classes moyennes et les jeunes de banlieue. Sauf que ces jeunes de banlieue sont des dealers et des délinquants, ça va de soi. Il y en a plein comme ça. Donc il est assez rare d'avoir des films comme L'Esquive qui auraient un contenu plus positif sur les jeunes de banlieue. Le jeune de banlieue a deux grandes fonctions, en fait. Il remplit le rôle que remplissait Satan à l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'il concentre sur lui la responsabilité de tous les péchés de la société. Donc c'est un violeur, c'est un fraudeur, c'est un terroriste, c'est un délinquant, c'est un casseur. Tout ce que vous pouvez imaginer comme étant un comportement déviant, négatif dans la société, le jeune de banlieue a ce comportement. Et l'autre fonction, c'est finalement d'être une incarnation, un mythe pour les classes moyennes âgées de culture catholique déchristianisée, donc le bloc MAS. Ce jeune de banlieue, c'est leur propre monstre identitaire, c'est-à-dire que finalement, c'est une représentation mythologique presque du jeune de banlieue qui est le concentré de toutes leurs peurs sociologiques.
Pourquoi certains médias contribuent à produire ce discours balianophobe ? C'est ce que vous dites. Quel est l'intérêt des médias ?
J'insiste sur le fait que ce n'est pas un grand complot des médias pour présenter les jeunes de banlieue de telle ou telle manière. Non, simplement, il y a des clichés dans la société et dans un paysage médiatique concurrentiel. Si vous ne véhiculez pas les clichés de votre propre public, eh bien votre public va zapper, regarder une autre chaîne et regarder quelque chose qui correspond à ces clichés. La concurrence exacerbée entre les médias a comme conséquence directe le renforcement des clichés et non pas un plus grand pluralisme de l'information, parce que si vous ne présentez pas les choses d'une façon conforme aux clichés du public qui est votre cœur de cible, eh bien, ce public va zapper. Qu'il s'agisse des intellectuels ou qu'il s'agisse des journalistes, quand vous vous engagez dans un travail de déconstruction des clichés ou de combat rhétorique et journalistique d'investigation contre les clichés, il faut vous attendre à deux possibilités. Soit, en fait, vous êtes en train de vous exprimer dans un média dont le public est déjà d'accord avec vous, et dans ce cas-là, ce que vous faites ne sert à rien. Soit soit vous êtes en train de vous exprimer dans des médias plus généralistes et donc des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous vont l'entendre et vous allez vous prendre des réactions violentes de la part d'une partie du public et aussi de la part de tel ou tel média qui en fait refuse d'envisager que ce que vous dites est vrai.
Si la relation entre les banlieues et la télévision reste encore complexe, des efforts sont visibles. Journalistes et citoyens tentent de préciser l'image des quartiers populaires. Par exemple, le magazine Fumigène, consacré aux banlieues, fait son grand retour cette année. Cela faisait 4 ans qu'il avait disparu du paysage médiatique. Édouard Zambeau, que les auditeurs de RFI connaissent bien, continue son travail sur la banlieue avec son émission Périphérie sur France Inter et avec le site ZEP pour Zone d'expression prioritaire. France 24 a lancé Pas de quartier, une plateforme sur laquelle les banlieues sont racontées par les gens qui y vivent. Enfin, comme on le chronique souvent dans cette émission, les citoyens, notamment ceux des banlieues, ont bien compris qu'ils n'avaient plus nécessairement besoin des médias traditionnels pour prendre la parole.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
C'était le 3e et dernier volet de notre série consacrée à la relation entre banlieue et médias en France. C'était aussi l'émission numéro 400 de l'Atelier des médias proposée par Dilette Sadaoui, Mélissa Barra, Ziad Maalouf et Simon Decreuse. Pour nous réécouter, c'est sur RFI.fr, le site de l'Atelier des médias, soundcloud.com et sur toute application de podcast. N'hésitez surtout pas à commenter notre émission sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
Switch my style. Holla, holla. People sing around. Now people gather around. Now people jump around.